on va faire ce qu'on appelle une réaction qui s'appelle la PCR, donc la réaction de polymérisation en chaîne. Et en fait, on va donc chauffer l'ADN d'abord à 95 degrés pour le séparer. Et ensuite, on va abaisser autour de 50-60 degrés. Et c'est là qu'on va avoir donc des amorces d'ADN qui vont venir se fixer sur les parties d'ADN qu'on veut copier. Donc, comme c'est des séquences répétitives, c'est pas gênant, on va se mettre à un endroit bien précis. Et ensuite, on a ce qu'on appelle une ADN polymérase qui va faire la polymérisation, donc en chaîne, et qui va permettre de refaire la copie de l'ADN. Donc, ça, on va le faire. Il faut savoir que ce cycle va permettre de doubler la quantité d'ADN à chaque fois. Et en fait, en 2 à 3 heures, on obtient une trentaine de cycles, ce qui fait quand même 1 milliard de copies.
Ah oui, donc c'est pas rien. Ouais.
C'est pas rien. Il faut savoir que la police, donc ensuite, on va travailler sur une quinzaine de marqueurs en France. C'est très important. Et ensuite, on va réaliser ce qu'on appelle une électrophorèse sur cet ADN. Alors, l'électrophorèse, en fait, c'est on va placer l'ADN dans un gel et on va le soumettre à un champ électrique. Donc, d'un côté le plus, de l'autre côté le moins. Et l'ADN va migrer. En fait, donc, les brins les plus lourds vont moins migrer parce qu'ils ont du mal à se déplacer. Les plus légers, donc ceux où il y a moins de répétitions, vont aller plus loin. Ce qui va permettre, en fait, d'obtenir une espèce de séquence où on va avoir un profil, en fait, avec des barres. Où on va avoir les différentes répétitions d'ADN, et c'est ça qu'on appelle le profil ADN qui va pouvoir être comparé. Donc, en fait, il faut savoir que là, on ne va faire qu'une analyse statistique de vraisemblance, ce qu'on appelle, et qui va être mise en parallèle avec tout le reste des indices. Hein. C'est-à-dire que l'analyse ADN ne suffit pas. On peut avoir des analyses, il faut savoir que l'analyse ADN n'est pas infaillible. Par exemple, on a eu le cas en Angleterre en 99, où un Anglais de 49 ans a passé plusieurs mois en prison pour cambriolage parce qu'on avait retrouvé son ADN, son profil génétique plus exactement, sur une scène de cambriolage à 300 km de chez lui.
Sauf que c'était pas lui.
C'était pas lui et surtout ça ne pouvait pas être lui vu que la personne n'était tout simplement, elle était atteinte de Parkinson et elle ne pouvait pas se déplacer seule. Mais il a fallu quand même plusieurs mois pour que la justice décide d'analyser ces phénomènes supplémentaires. Donc il faut savoir que c'était seulement 6 marqueurs qui étaient analysés à l'époque. Donc, ce qui permettait de dire que son profil ADN avait une fréquence de 1 sur 37 millions. Donc, on disait, ah bah, c'est lui. Donc, maintenant, sur 15, on a quand même la probabilité est très, très faible de se tromper. Et il faut savoir que, pour le cas fameux cas de Glasgow, justement, on s'est aperçu très vite que l'ADN ne correspondait pas, hein, parce qu'il ne s'agissait pas donc du fameux Xavier Dupont de Ligonnès. Donc, ça a été très, très vite à déterminer que c'était pas lui. Alors, il faut savoir qu'en France, les profils génétiques sont désormais stockés dans un fichier. Depuis une affaire malheureusement célèbre qui était l'affaire Guy Georges.
Oui.
Donc en fait, c'est suite à cette affaire Guy Georges que le fichier national automatisé des empreintes génétiques pour les délinquants sexuels a été créé et il a été élargi en 2001 pour impliquer aussi ceux des crimes graves contre les personnes. Donc il faut savoir que le refus de prélèvement d'ADN, c'est quelque chose qui est passible à la fois de prison et d'amende assez élevée. Hein,
Donc si on vous demande, vous acceptez. Hein.
Voilà, vous acceptez parce que vous risquez quand même 1 an de prison et 15 000 euros d'amende.
Ah,
hein,
oui.
Le double si c'est dans le cas d'un crime. Et en cas de classement sans suite, il faut savoir que justement, il est possible de demander l'effacement de son profil génétique auprès du procureur de la République. Voilà, comme ça, vous en saurez plus sur la détection ADN.
Et ça vient compléter les empreintes digitales, du coup?
Oui, c'est ça, en fait. C'est-à-dire que justement, dans le cadre d'une enquête, ça va compléter tout le reste du faisceau de présomption. Donc, parce que les empreintes digitales, on ne va pas pouvoir toujours les retrouver. Mais il va y avoir d'autres éléments de présence ou pas de la personne dans les environs. C'est sûr que si la personne était avec un ticket, elle était en train de manger au restaurant à 300 km, on saura que c'est pas elle. Par contre, si on a des faisceaux de présomption qui font qu'elle était à proximité, qu'il y avait des liens avec la victime ou des choses comme ça, là on peut facilement rapprocher et ça va faire en fait le faisceau de concordance qui va affirmer que c'est telle ou telle personne qui est coupable.
Merci Geoffroy Prévost pour toutes ces informations. On peut retrouver E égale MC Bleu sur francebleu.fr et on se retrouve la semaine prochaine.
À la semaine prochaine.